égalité. Alors moi déjà je suis pas pour l'égalité. L'égalité c'est un mirage, je pense. C'est un fantasme. Mais c'est même pas un fantasme qui est souhaitable pour moi. C'est pas possible, on peut pas tous être égaux, ça existe pas. En tout cas c'est mon avis.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, le temple du gai savoir, ou plutôt, vu que par la magie du podcast nous sommes écoutés dans le monde entier, et que désormais nous avons même des invités américains, The Temple of Funny Knowledge. Oui, aujourd'hui notre invité, que je m'en vais vous présenter dans quelques instants, est un professeur d'histoire européenne qui enseigne au Dartmouth College dans le New Hampshire, quatre mots qu'on a hâte d'entendre prononcer par Cyril, notre rédacteur en chef bilingue. Cyril qui, disons-le d'emblée, voit d'un mauvais œil le mot sur lequel nous allons zoomer cet après-midi. Une notion inscrite au fronton de nos mairies, celle d'égalité. Si, pour nous autres, républicains, l'égalité est extrêmement importante, elle doit structurer notre vivre ensemble, pour Cyril, elle est, je cite, « le premier pas vers le communisme ». À trop chercher l'égalité, on va finir comme ces pauvres New-Yorkais, avec un maire coco qui va tuer le business avec sa faucille et son marteau, s'époumonait Cyril en conférence de rédaction. Lui qui n'a pas dormi depuis l'élection mardi du socialiste Zoran Mamdani à la mairie de New York, il prie Sainte Rachida pour qu'un tel malheur n'arrive jamais dans la ville lumière. Alors c'est résigné qu'il participera à notre émission du jour. Sa devise à lui, ce n'est pas « liberté, égalité, fraternité », mais « mon joie Saint-Denis, que trépasse si je faiblis ». Car oui, Cyril fait partie de ces Français qui, même en 2025, ont choisi de rester fidèles à la branche capétienne de la royauté française. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
La fidélité, ça paye.
Ah ben là, vous l'apprendrez. Je sais, mais c'est pour ça qu'on bosse ensemble depuis si longtemps. Bonjour Darin McMahon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes américain, vous êtes prof d'histoire européenne au fameux Dartmouth College aux États-Unis et vous êtes exceptionnellement de passage ici. On est très heureux de vous accueillir dans Zoom Zoom. Il y a quelques années, vous aviez publié le remarqué Fureur divine, une histoire du génie et vous revenez aujourd'hui avec Égalité, histoire d'une idée insaisissable qui vient de paraître chez Flammarion. Vous partez à la recherche des origines de l'égalité, un voyage assez passionnant sur une notion qu'on croit connaître, mais qui se révèle finalement, comme vous l'écrivez, assez insaisissable. Ensemble, on va quand même essayer de la saisir un petit peu. Juste le temps de vous présenter mes joyeux drilles du gai savoir, my happy drills of the funny knowledge. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Allez, bonjour, bonjour à
alors,
tous.
Je ne vous cache bonjour pas que, le vu leur aisance dans la langue de Shakespeare, on a failli faire l'émission en anglais. Ouais, voilà. Les auditeurs d'Inter étant quasiment tous bilingues, ça n'aurait pas posé de problème, mais j'ai pensé aux enfants qui nous écoutent. Manon a dit
« Save the children ».
Et je me suis dit non, ne faisons pas l'émission en anglais. Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une pièce jointe.
Oui, et aujourd'hui, elle est très ancienne, puisqu'elle date de 1789. On a l'impression de la connaître par cœur, et pourtant, qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Face à vous, Darin, vous pourriez être tenté, pour une simple raison de taille, de le prendre de haut. N'en faites rien, car lui aussi connaît bien le collège. Peut-être pas celui de Dartmouth, mais celui d'Alençon, le Marguerite de Navarre College.
Non, j'étais à Balzac.
Ah, ça n'a rien à vous étiez à Balzac ? Ah ouais, autant pour moi, c'est un collège quand même. Comme quoi, il est quasiment aussi diplômé que vous. Si ça se trouve, il l'est même plus. Est-ce que vous avez le brevet, Darin ? The brevet ? You have it ?
Je ne sais pas.
Ah, vous êtes plus diplômé. Vous l'avez eu quand
un diplôme que vous n'avez pas, mais moi que j'ai. Oui.
Vous l'avez eu tout juste
De peu.
De peu.
On m'a conseillé de pas trop y aller, moi d'ailleurs.
Non.
Ça, et j'avais 95 points de retard. Donc
Mais vous l'avez eu, comme quoi tout est possible.
Mais c'est tellement facile.
Vous êtes source d'espoir. Manon, ne l'accablez pas, s'il vous plaît. Vous êtes source d'espoir pour tous nos auditeurs. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion du jour. Alors, l'égalité, ça les a inspirés.
Mais c'est presque philosophique, votre histoire. Là, on va faire de la philosophie de trottoir. Qu'est-ce que l'égalité aujourd'hui en France, dans le monde, entre les hommes et les femmes, entre moi et Manon, dans le monde du travail ? Réponse à égalité dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous remonterons aux origines de l'égalité politique, au temps des Lumières, pour réaliser que la notion d'égalité n'était pas la plus chère à nos grands philosophes du 18e, pour qui globalement, la liberté ça va, l'égalité bonjour les dégâts. Le Zoom Zoom Test vous fait découvrir à travers leurs citations les plus borderline Voltaire et Rousseau comme vous ne les avez jamais vus. Juste avant 17h, elle aussi est souvent borderline, mais se cachant derrière des personnages, elle est inattaquable sur le plan pénal. Lisa Perriot nous rejoindra. Après 17h, restez avec nous puisqu'on recevra la comédienne Abou Breitman et celui que Cyril considère comme le plus bel acteur français, Pascal Elbé, qui signe un film en forme de fable, La Bonne Étoile. Mais d'abord, zoom donc sur ce concept d'égalité, on va y revenir en détail. Vous dites, Darin McMahon, que l'égalité peut impliquer une part d'inégalité, de hiérarchie et même d'exclusion. Comment c'est possible ça ?
Oui, en fait, ce que je dis souvent, c'est que l'égalité, c'est un concept de comparaison. Donc, quand je dis que toi et moi, par exemple, sont des égaux, il faut choisir des points en commun. On peut dire que tous les deux sont des hommes, tous les deux sont n'importe quoi, des hommes de même sang, de même couleur, de peau. Les êtres humains ont choisi beaucoup de choses. Mais ceux qui n'ont pas ces qualités-là sont pas des égaux.
Ils sont exclus.
Donc, de dire que nous sommes des égaux, c'est de créer un cercle des égaux et de mettre dehors les exclués.
On va y revenir, mais c'est un peu ce qui s'est passé en 1789, j'imagine.
Ouais, exactement.
C'est ça. Face à vous, Darine, vous l'excuserez de briser l'ambiance républicaine de cette émission, mais il estime que son aïeul, Childéric de la Carrière, n'a pas perdu une bourse à la bataille d'Azincourt pour que des wokistes dégénérés s'essuient les pieds sur la fleur de lys, et le seul type de gouvernement qui, quoi qu'on en dise, a fait ses preuves, la monarchie absolue. Au nom d'une chimérique égalité qu'on n'atteindra jamais qu'en rêve. Cyril, c'est un mouchoir sur le nez que vous allez néanmoins remonter pour nous aux origines de cette notion d'égalité.
A tissue on the nose,
perfectly. Avec l'égalité, mon Dieu. D'où ça sort?
Imaginez un mot qu'on affiche partout, mais qu'on applique rarement. Un mot gravé sur les mairies, répété dans les discours, mais toujours dans la salle d'attente de la vraie vie. On le cite dans les slogans, on le revendique à gauche, on s'en méfie parfois à droite, et parfois aussi au centre, on l'oublie. C'est un mot très français, mais peut-être aussi celui qu'on trahit le plus souvent. Parlons donc d'égalité. Parce que si tout le monde se dit pour, tout le monde ne parle pas de la même chose. L'égalité, c'est à la fois le rêve républicain, le cauchemar des privilégiés et le mot le plus déformé de la politique française. Le mot lui-même vient du latin equitas, l'idée selon laquelle il ne peut y avoir de discrimination des droits entre les êtres humains.
Et politiquement, quand est-ce que le mot apparaît ?
Eh bien en 1789, vous avez commencé à le dire et Manon en parlera tout à l'heure, évidemment avec la déclaration des droits de l'homme, rappelez-vous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais dès le départ, cette notion fait débat. Chaque fois un même réflexe, dès qu'on prononce le mot égalité, certains y voient une menace. On l'a vu avec le mariage pour tous. Il s'agissait de donner les mêmes droits à des gens qui s'aiment, et ça en a défrisé certains, comme si cela leur retirait leurs droits à eux. L'égalité, c'est une notion aussi qui interroge. Pierre Rosanvallon dit que c'est un idéal exigeant qui nous met sans cesse en défaut. L'historienne américaine Joan Scott dit que l'égalité n'est jamais neutre. Elle dit toujours qu'il est inclus et qu'il ne l'est pas. Alors d'où ça sort, l'égalité? Eh bien de là, d'un rêve de 1789, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. À l'instant, ce message du prix Goncourt, Laurent Mauvignier, qui me dit qu'il est jaloux de cette phrase où vous avez dit « mais toujours dans la salle d'attente de la vraie vie ». Il trouve que c'est absolument magnifique, c'est bon. Cyril, vous devriez vous lancer vous aussi. Darine McMahon, de Pierre Rosanvallon, qui dit que l'égalité est un idéal exigeant qui nous met sans cesse en défaut, ou de John Scott, pour qui l'égalité dit toujours qui est inclus et qui ne l'est pas, vous vous sentez proche de quelle définition ?
Bon, le deuxième, en fait, je viens de faire ce point-là, et je suis d'accord avec John Scott, dans ce sens-là, absolument.
C'est le sens d'une égalité qui forcément exclut. Il y a des cercles, alors parlez-nous de ces cercles d'égalité. Oui. Dès qu'on parle d'égalité, en fait, on inclut certaines personnes, mais on en rejette de facto d'autres.
Et ça a fonctionné comme ça depuis le début, avec les Grecs, c'est pareil, les chrétiens, les gens au XVIIIe siècle, comme tu as dit. Donc à mon avis, c'est toujours le problème. Même maintenant, quand on parle de l'universalisme des êtres humains, ça implique que les pas êtres humains, c'est-à-dire des autres animaux de la planète, sont sous notre domination.
Vous dites au début de votre livre que lorsque vous avez commencé à travailler sur le sujet de l'égalité, la plupart de vos interlocuteurs vous parlaient d'inégalité.
Ouais.
Qu'est-ce que ça dit, ça?
Oui, c'était marrant. En fait, je suis allé en Suède pour donner une série de conférences, et le titre de mes conférences était l'histoire de l'égalité. Mais en fait, les gens qui se coupaient de moi changeaient le nom, donc c'était l'histoire de l'inégalité. Et je me suis dit, alors, même les Suédois ne peuvent pas imaginer l'égalité, nous
c'est
avons
foutu,
un problème.
Oui, c'est vraiment foutu.
Est-ce qu'on croit encore aujourd'hui à l'égalité ?
Écoutez, je crois que nous vivons dans une période très difficile pour l'égalité. Nous avons vu, après une période de compression pendant le XXe siècle, l'émergence des inégalités très très fortes. Et donc, c'est une espèce de foire, mais c'était là il y a pas longtemps. En fait, j'aime bien faire la référence à Martin Luther King qui a dit plusieurs fois que l'arc d'histoire morale tend vers la justice, c'est-à-dire vers l'égalité. Cette même phrase, président Obama a utilisé 33 fois pendant son mandat. Alors, il y a pas longtemps, en fait, les gens croyaient en l'égalité, la possibilité de se répandre et de faire plus. Mais nous avons perdu ça, et c'est pour ça que je veux en fait investiguer le mot, le concept, l'histoire, pour pouvoir le réimaginer pour l'avenir.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Naissons-nous vraiment libres et égaux en droit? En droit peut-être, mais surtout le reste. On continue de zoomer sur cette grande notion d'égalité avec le professeur d'histoire européenne Darid McMahon, qui sort justement un livre intitulé « Égalité, l'histoire d'une idée insaisissable » chez Flammarion. Vous revenez d'ailleurs sur cette notion d'égalité issue de la Révolution française. Elle a pu effrayer par la suite des penseurs comme Tocqueville, Marx ou Nietzsche. Pour quelle raison?
Pour quelle raison?
Pourquoi ça faisait peur, l'égalité?
Oui, en fait, il y a forcément l'exemple du terreur. Et en fait, pendant la terreur, c'était le moment dans lequel les Jacobins poussaient, forçaient la question de l'égalité de plus fort. Donc, pour beaucoup de gens, il y avait une relation directe entre les deux. Les Jacobins même s'appelaient le guillotine, la faux de égalité. C'était une façon littérale de faire l'égalité, de niveler.
Et donc ils ont fait beaucoup de mal au concept d'égalité, quelque part, en allant trop loin de ce côté-là, et avec évidemment la guillotine.
Exactement.
Ça a marqué les esprits quelque part, y compris des philosophes.
Absolument. Et même quelqu'un comme Tocqueville, vous avez invoqué, il est allé aux États-Unis pendant le 19e siècle. Il a vu une société en train de bouger, une des endroits les plus égales pendant le 19e. Et il avait peur de ça, mais il savait que, en fait, ça, c'est le futur. Le développement graduel, il dit, de l'égalité des conditions est un fait universel, est un fait providentiel. Ça va venir. Donc, il faut le nuancer, il faut le contrôler peut-être, mais ça va venir.
Vous reprenez ce terme de Goethe en exergue de votre livre, l'égalité imaginaire.
Oui.
L'égalité, ça n'existe pas. Donc.
Oui, et c'est une expression de Tocqueville même, en fait. Moi, je l'utilise pour renforcer le fait que quand nous voyons le monde, nous voyons d'abord la différence, la inégalité. Mmh. Et il faut, exactement comme je disais tout à l'heure, trouver des points en commun, de l'imaginer. Comment est-ce que nous sommes des égaux? Et donc, ça ne veut pas dire que l'égalité n'est pas réelle, tout au contraire, mais il faut commencer avec l'imagination individuelle et puis sociale, et à ce point-là, ça devient réel et peut agir dans le monde.
Maintenant. Vous parlez de la théorie nazie sur l'égalité, l'égalité de type, une théorie qui permet de justifier les discriminations. C'est quoi cette théorie de type?
Oui, exactement. En fait, Ami, mon premier livre, c'était sur les origines de l'extrême droite. Donc, j'ai pas mal travaillé avec ces sources-là, mais ça m'a choqué de trouver qu'il y a un discours de l'égalité chez les fascistes, en Italie, en Allemagne. Et en fait, si vous pensez, le symbole du fascisme, c'est le fascisme. Romain, symbole de justice, mais pendant le 18e et le 19e siècle, c'était un symbole républicain de unité et aussi de égalité. Donc, ils ont pris exprès pour forcer la question. Et en fait, les terroristes nazis disent, écoutez, l'égalité implique toujours inégalité. Mais les libéraux dans le monde qui prononcent un égalité universaliste avouent ça en voix. Et ils disent que, ah oui, tout le monde est égaux, mais en fait, sauf les blacks, sauf les femmes, etc., etc. Alors, les nazis ont critiqué ça avec un peu de force, il faut l'avouer, mais en disant, ok, nous allons parler franchement, il y a des égaux et des non-égaux. Et donc, le Arschgleichheit, l'égalité de type que vous invoquez, c'est Carl Schmitt, en fait, le philosophe allemand qui était l'architecte de loi allemande. Il dit que, en fait, il y a des égaux, c'est-à-dire des Aryans, et le reste, non. Ouais, les juifs et des autres, etc. Donc, il y aura une loi pour eux et une autre loi pour les autres. Et ce qu'ils disent, et c'est fort là, c'est les libéraux font la même chose, mais ils ne l'admettent pas.
On disait que les Jacobins avaient peut-être écorné à la base la beauté du mot égalité en l'associant avec la terreur et le fonctionnement de la guillotine. Est-ce que, quelque part, le régime communiste, le régime soviétique, a pas aussi dévoyé cette notion d'égalité? Parce que
eux, ils ont voulu à la base, enfin, on ne sait pas s'ils l'ont vraiment voulu, mais en tout cas, le principe, c'était l'égalité la plus totale. Et finalement, vu comment ça a tourné, on pourrait dire que...
C'est compliqué, en fait. C'est une autre chose qui est assez surprenante de mon histoire et en fait de l'histoire de l'égalité. Marx n'était pas un fan d'égalité, forcément. En fait, il dit que c'est l'illusion de l'époque. C'est une citation de son travail sur l'idéologie allemande. Et c'est une illusion ni seulement des républicains, des social-démocrates, mais des socialistes. Il critique très fort l'effort à la fin de la Révolution française par Buonarroti et des autres, de forcer la congération des égaux, d'avoir le vrai égo. C'était un nivellement total, ce que Marx appelle Gleichmacherei en allemand, c'est-à-dire une espèce vulgaire de
équalité. Nivellement par le bas, quoi.
Exactement, exactement. Donc, il résiste contre ça, et il pense qu'en fait... Le monde qui va venir va donner des opportunités différentes aux gens. Son but, son objectif est de terminer la lutte des classes. Et puis, selon la phrase de Louis Blanc, de chacun sa capacité et de pour chacun leurs besoins. Mais en disant que les besoins de chacun sont différents et les capacités sont aussi différentes.
On dit qu'il n'y a pas d'égalité.
Ouais, exactement.
Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais pas en taille. Darine, il est l'heure de se tourner vers Quentin, lui, qui chaque après-midi arpente pour nous les rues de la capitale afin de recueillir les impressions des passants sur notre thème du jour. Alors Quentin, l'égalité, j'imagine que là, tout le monde a sa propre définition.
C'est ce qu'on va vérifier. Je fais ma première rencontre sur ce banc du 15e arrondissement de Paris, banc posé devant un kiosque à journaux où le kiosquier me confie avoir demandé la réimpression du Nouvel Obs de la semaine dernière, tant les fans de Marie de Breuer se sont rués sur cette double page où elle pose fièrement sur son lieu de travail. Mais prenez-en de la graine. Faites une petite photo devant Radio France.
Mais elle tient même Radio France
dans le creux de sa main.
C'est ici, sur ce banc, que je fais la connaissance de ce monsieur. Quel est son prénom ?
Je suis là juste pour un stage, pour une durée de 2 semaines.
Vous habitez où sinon ?
En Algérie.
Et il s'appelle Samy. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen. Et quel mot ?
Ah oui, égalité. C'est le combat de tous les jours. C'est un rêve. Pour ne pas dire utopie, c'est un terme que je n'aime pas, parce que quand on inscrit quelque chose comme un terme de l'utopie, c'est comme si c'était un objectif qu'on ne pourrait jamais atteindre.
Pour vous, on peut être égaux un jour ?
Absolument, J. Carrois. Qu'est-ce que ça vous évoque, être humain ?
Être humain ?
Oui. Dans la dénomination déjà, il y a être humain. C'est-à-dire qu'on essaye de l'être. On le devient chaque jour un peu plus. Et le jour où on le monde sera meilleur.
Un peu de philo, un peu de poésie, et je rencontre ici une maman et sa fille qui est en CM2.
Égalité.
C'est quoi l'égalité ?
Bah, c'est quand tout le monde est pareil.
Oui, c'est ça, c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs. On est tous égaux.
Est-ce qu'on est tous égaux dans les faits ?
Non, dans les faits, non. Dans la Constitution, c'est bien, mais dans les faits, non. Malheureusement. Je pense que c'est pas atteignable, on peut pas être égaux. De nature déjà, par nature on n'est pas égaux, les hommes, les femmes.
Alors que je traverse la route maintenant, je vois ce jeune homme posé sur un vélo en libre-service, sac à dos, casquette, quel est son prénom ?
Chek.
Chek ?
Ouais.
Vous avez quel âge ?
19 ans. En ce moment je vais à l'école, école de commerce, l'INSEC juste à côté.
Ok.
Mais je fais les écoles de commerce parce que quoi, c'est réputé et les gens ils aiment bien.
Bah ouais, ça fait bien. À son tour de philosopher ou pas sur notre sujet du jour.
Égalité.
C'est quoi l'égalité ?
C'est être tous égaux devant la loi. C'est pas vraiment le cas partout.
Pourtant. Je sais pas, dernièrement.
Je vous écoute, dernièrement.
Bah, on a mis un ancien président de la République en prison quand même.
Ah ouais, non mais Sarkozy, avec les faits qui se sont passés, je pense d'un côté il mérite. Enfin.
Est-ce qu'on est égaux ?
Non, c'est pas moi. Ouais, en faisant ça, ouais, parce que c'est un président quand même. Dans quel pays, dans quel monde, quelqu'un va s'imaginer un président en prison ?
Mais malgré cet exemple, il doute.
Et je pense pas qu'on soit tous égaux. Par exemple, dans le monde du travail aujourd'hui. Si, par exemple, il y avait un jeune TikToker, je sais pas il s'appelle comment, j'ai oublié, mais il s'était plaint sur TikTok comme quoi on avait refusé, parce que, on va dire, par rapport à sa couleur de peau et à sa nationalité.
Parce qu'il était noir ?
Exactement.
Chek me parle du fameux CV à adresser aux employeurs avec une photo.
C'est pas obligatoire de mettre, mais moi, personnellement, je préfère ne pas le mettre. À l'entretien, s'ils veulent voir à quoi je ressemble, bah, à l'entretien, ils me verront. Mais ça, par rapport à ça, ils n'ont pas vu ma tête. Hein. S'ils avaient vu ma tête, c'était autre chose.
Ma dernière rencontre, c'est Margot. Cheveux blonds qui tombent sur les épaules d'une veste en cuir qui lui donne un look assez rock. Dernière réaction sur...
Égalité. Alors, moi déjà, je suis pas pour l'égalité. Je suis pour l'équité, ce qui n'a rien à voir. L'égalité, c'est un mirage, je pense. C'est un fantasme. Mais c'est même pas un fantasme qui est souhaitable pour moi. C'est pas possible, on peut pas tous être égaux, ça existe pas. En tout cas, c'est mon avis.
Mais c'est marrant parce que c'est marqué sur le fronton de toutes les mairies, quoi. Mm-hmm. Liberté, égalité, fraternité.
La fraternité, ça existe. Et c'est pour ça que la fraternité, pour moi, elle appelle l'équité et pas l'égalité. À savoir, on donne à hauteur de ce qu'on a, on aide les autres à hauteur de ce qu'on a. C'est pour ça que j'étais en faveur de la taxe Jukmat, mais c'est un autre débat.
Je trouve ça fou que le concept d'égalité ne lui parle pas. En tant que femme, par exemple.
Bah, c'est l'égalité en droit. Moi, en tant que femme, j'ai envie d'être traitée comme un homme, devant la justice, en termes de salaire, etc., sur les tâches ménagères, voilà.
Ça, c'est l'égalité.
Ça, c'est l'égalité. Moi, je vous parle de l'égalité comme un concept de tous les jours. Non, je crois pas à l'égalité. Par exemple, dans un couple, je sais pas, s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, c'est normal qu'il participe un petit peu plus. Ça, c'est équitable.
Le prorata, par exemple.
Voilà, ce genre de truc.
Au niveau du loyer, par exemple.
Quelqu'un qui est très grand et qui regarde un spectacle et qui est devant quelqu'un qui est très petit, pour moi, bon, c'est égal. Ils sont arrivés au même moment, ils ont tout autant le droit d'être devant. L'équité, ce serait dire, bon, je suis plus grand que toi, donc si tu veux, je me mets derrière.
Oui. Équité, eh ben je vois, équité plutôt qu'égalité, je me dis qu'elle a peut-être pas tort, parce qu'à force de vouloir gommer les différences, on oublie que certains partent plus chargés et d'autres plus légers. L'égalité, c'est un idéal sur le papier, l'équité, c'est le réel qui essaie de s'en approcher. Mais alors quand elle m'a sorti son histoire du grand et du petit à un concert, j'ai souri, parce que moi, dans cette histoire, je vois très bien qui reste derrière.
Je me suis pas fait chier à acheter des places en carré or pour vous céder ma place, parce que peut-être que vous ne voyez rien.
Vous faites
je ne
vous
bouge
devez
pas.
Gêner au moins 20 personnes.
Je ne bouge pas. Je m'en fous, j'ai payé, je reste devant.
Oh là là.
Darren McMahon, égalité, équité. C'est intéressant de travailler sur ces deux notions. Est-ce que finalement l'équité n'est pas plus souhaitable que l'égalité qu'on n'atteint jamais?
Je crois que c'est très important de faire ça, de parler avec les gens dans la rue, de entendre ce qu'ils ont besoin de dire. Et on a entendu en fait une confusion assez générale entre l'égalité comme fait ontologique. Non, tout le monde n'est pas égal dans ce sens-là, mais est-ce que nous méritons quand même les mêmes droits? Ça, c'est la question devant la loi, comme le monsieur a dit. Équité et égalité. Oui, en fait, cette paire fonctionne souvent aujourd'hui, surtout avec les jeunes, je crois, parce que, en fait, pour eux, assez souvent, l'égalité est devenue quelque chose d'abstrait, comme vous l'avez dit, et en plus, ils savent l'histoire de l'égalité. L'égalité prétend à un certain universalisme, mais ce fonctionnait pas comme ça. Par exemple, bon, de parler de l'égalité de tous les hommes sont créés égaux, Jefferson a dit, mais en fait, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Équité, qui a aussi une longue histoire à côté de l'égalité, a émergé récemment comme une manière d'adresser les injustices historiques du passé. Alors, de traiter quelqu'un avec équité et assez souvent de ne pas traiter avec égalité. Vous, à cause de votre histoire, des injustices du passé, etc., a besoin d'un peu d'aide maintenant pour mettre équilibre. Sur le même, exactement. Et à ce point-là, peut-être... Dans l'avenir, nous pouvons parler de l'égalité.
Samy, que j'ai rencontré sur ce banc, il y croit, lui, il veut pas. Il veut pas parler d'utopie, mais il pense qu'on sera de plus en plus humain à l'avenir. Pourquoi faut pas rêver? Vous cassez un peu le rêve.
Ouais.
Il faut être pragmatique aujourd'hui. On n'a pas le droit de rêver.
Ouais, exactement. Mais nous vivons dans un moment qui n'a pas beaucoup de un sens d'idéalisme. Et peut-être ça va changer. On sait jamais.
Mais oui, parce que concrètement, est-ce qu'on pourrait faire société en étant tous égaux?
Ouais. Non, c'est impossible. Oui. Et même les critiques les plus pointues aux questions de l'égalité. Aujourd'hui, je pense peut-être à Thomas Piketty. Si vous demandez à lui qu'est-ce que ça veut dire l'égalité sociale, économique, ça va être difficile à répondre parce qu'il n'y a pas vraiment. Il y aura toujours des inégalités, mais la question est comment, ouais, et comment et combien. Et nous habitons maintenant dans un monde. Nous avons vu des écarts énormes depuis les années 70 entre les riches et les pauvres, beaucoup pire qu'il était pendant les années. Bon, pour la majorité du XXe siècle. Donc, je crois que on doit en fait aspirer à réduire les inégalités, arriver à la fin à l'inégalité totale, non, et ça serait pas désirable à la fin du compte, mais de réduire les inégalités existantes.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quelle émotion pour notre invité, le professeur américain Darren McMahon, de visiter aujourd'hui non seulement le pays de l'égalité, la France, mais aussi l'émission de l'égalité, puisque vous le savez, les Français, les Helvètes, les Belges, les femmes, les humoristes invertis, les seigneurs des Cathy et même les personnes de petite taille ont droit de citer dans Zoom Zoom Zen. Une émission dont Télérama estime, je cite, qu'elle ne réunit pas que des lumières, mais au fait, les lumières, les vraies, étaient-elles si éblouissantes que ça sur la question de l'égalité? C'est ce que nous allons découvrir dans un Zoom Zoom test en forme de triviale poursuite de la honte. On commence en douceur avec un philosophe de référence qu'on a tous étudié au lycée, sauf Quentin qui s'est arrêté au collège, Voltaire. Voltaire qu'on peut légitimement présenter comme...
J'y habite du coup.
Ah, c'est vrai, vous avez
ouais.
Habité Voltaire.
Pas.
Pour les
ah, ça va, bah, c'est grand.
Vous voulez donner le numéro exact non, et le digicode, bon, le digicode bon, de... bon. Très bien. Voltaire qu'on peut légitimement présenter comme le premier féministe et dont la pensée a irrigué des penseurs plus proches de nous comme Alain Finkielkraut, Michel Sardou ou Yann Moix. Parmi les trois citations...
Mon trio de l'enfer.
Parmi les trois citations suivantes, laquelle ou lesquelles sont à mettre au crédit de Voltaire? Une femme sans poitrine, c'est un lit sans oreiller. Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Ou aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste.
C'est.
Je crois que je suis devant.
Ah oui, vous êtes devant. Mais à quoi sert-il d'être devant quand on a la mauvaise réponse? Non, non, mais ça ne sert à rien de dire comme des ânes. C'était la réponse
comme
B.
Comme des ânes.
Réponse B. Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Une citation extraite de son fameux Zadig, dont Frédéric Lefebvre, ex-conseiller du président Sarkozy, parlait si bien. Les deux autres punchlines ne sont pas le fruit du cerveau malade de mon co-auteur Gérald Arnault, quoi qu'elle lui ressemble, mais d'Anatole France et de Baudelaire, deux autres grands féministes. Baudelaire, dont visiblement Arthur Teboul n'a pas lu tous les poèmes. Quant à la citation d'Anatole France, une femme sans poitrine, c'est un lit sans oreiller, c'est carrément le petit mot que Cyril avait glissé dans sa Smartbox Augmentation mammaire qu'il avait offerte à sa femme à Noël dernier. Mais revenons à nos philosophes des Lumières,
classe.
Pour
c'est
qui, horrible. Visiblement, l'égalité n'allait pas de soi, ni entre les sexes, ni entre les races. Manon Quentin, qui a déclaré « Les blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. »
C'est pas vous, ça?
Oh non.
Quentin, je vais être obligé de vous infliger
une
un certain nombre de points de pénalité.
C'était une bonne blague.
Très bien.
Non, pas ouf, non.
Alors, qui a dit ça? Ah oui, je vous propose.
Peut-être.
Toujours ce bon vieux Voltaire dans son traité de métaphysique. Cet indécrottable Diderot dans Les bijoux indiscrets ou ce visionnaire de Rousseau dans son discours sur l'inégalité?
Réponse A.
Réponse C.
Rousseau, mon compatriote.
C'est lui.
Aurait professé des affirmations pareilles.
Ouais.
Honteuses. Qui font honte à son génie.
Arrête de jouer, j'arrête.
C'est une bonne réponse de Quentin Louis, mais oui. Évidemment que c'est Voltaire. Misogyne, certes, mais aussi raciste, homophobe, antisémite, le Voltaire. Les quatre à la suite. Alors avec des champions de l'égalité comme Voltaire, pas étonnant que notre pays soit devenu trois siècles plus tard un modèle pour toutes les autres démocraties du monde. D'ailleurs, vous l'aurez certainement noté, Darine, depuis votre arrivée sur le sol français, la pauvreté n'existe plus chez nous, elle a disparu, balayée par 8 ans de macronisme. Le mot même de pauvreté s'apprête à sortir du Larousse en 2026, puisque désormais, selon Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, autre dossier
c'est
qui avance bien,
ouais.
Il ne faut plus dire pauvreté, mais disparité douce, sobriété subie, ou pouvoir d'achat alternatif.
B, ouais, j'ai dit avant.
Je crois que Manon, vous l'avez.
B, ouais.
Vous l'avez à force postillon, vous l'avez dit avant. Ouais. Effectivement, on va changer la bonnette pour ceux qui passeront après. Fini la pauvreté. Bonjour, la sobriété subie des écolos malgré eux. Dans la bouse d'Agnès Pannier-Runacher,
elle est plus ministre, donc si vous pouvez mettre à jour votre.
Oui, bon, ça s'en fout. Elle l'a été à un moment.
Oui,
elle a bien fait avancer la cause de la transition écologique.
Dites royal, dites ce que vous voulez.
Quentin, je crois que vous ne remportez pas cette
non,
course. Non, là vraiment, non, vous vous êtes sacrifié, peut-être pour la bonne cause, peut-être
sacrifié.
Pour. Voilà. Dans la bouche d'Agnès Pannier-Runacher, vous pouvez contempler la magie de la langue de bois incrustée de merveilleux éléments de langage, un bijou de faucuterie qu'on appelait jadis le foutage de gueule. Mais qui sommes-nous pour juger? Alors nous, personne. Le problème, c'est qu'il existe aujourd'hui des outils pour mesurer les inégalités. D'après vous, Manon Quentin, comment s'appelle l'outil de mesure d'inégalité de revenus d'un pays? Le coefficient Riclès? La variable CACOLAC? ou l'indice de Gini.
C.
A.
Le coefficient
bah, oui,
Riclès.
Mais c'est...
Réponse C, Quentin. Oui. Ah. J'ai pas envie de vous donner de points, mais
bah,
c'est important,
bah,
c'est à vous.
Vous allez
l'indice qui mesure le degré d'égalité et d'inégalité d'un pays est l'indice de Gini, comme la boisson pétillante que Cyril offrait aux petites pépées de Ponto Combo afin de les inciter à grimper dans sa 106. Et oui, le Gini, c'était une boisson pétillante.
Ah oui, vraiment.
Ça existe encore.
Sans alcool, c'est vrai?
Bon,
non, je ne crois pas.
Il y a des canettes, je crois.
Allons sans tête.
Comme je sais que Manon, vous brûlez. Vous voulez d'en connaître la définition exacte, je vous la livre. Le coefficient de Gini est le double de l'aire comprise entre la coupe de Lorenz, de la distribution des revenus et celle associée à une situation théorique totalement égalitaire. Bon, le temps que Quentin ramasse Manon, je vous pose l'ultime question, les amis, finalement la plus importante. Est-ce qu'on est bon, nous, en France, en matière d'égalité? Tenez, si je vous dis Pologne, Hongrie, France, pouvez-vous me donner le classement de ces trois pays du plus égalitaire au moins égalitaire?
Pologne, dans cet ordre.
Pologne. Et dans cet ordre.
Oh, mais non, mais Irlande, quand
Pologne, Hongrie, France.
Ah, vous me donnez cet ordre-là?
Ouais. Ouais.
Ah, c'est dur. Ah, Pologne, France, Hongrie.
Pologne, France, Hongrie, c'est également la réponse que j'aurais donnée personnellement.
Ah.
Effectivement. Mais non, c'est une bonne réponse, une fois de plus, de Quentin.
Mais...
Ah. À mon avis, on souffle en régie. Je ne vois pas d'autre explication.
Ouais.
Oui, un coefficient.
Ça, c'est pas cool.
Avec un coefficient de génie de seulement 0,298, on est derrière la Pologne et la Hongrie. À noter tout de même qu'on est devant l'Allemagne, l'Italie et la Suisse et qu'on fait de gros efforts, puisqu'avant redistribution, la France est parmi les pays les plus inégalitaires du monde, juste après les États-Unis et le Royaume-Uni. Et une fois les impôts payé, elle arrive en milieu de tableau. Ce qui ne m'étonne pas, je le sens passer chaque année. Vive la redistribution, vive l'égalité et victoire de cette ordure de Quentin Luc.
Ah, merci à tous.
Égalité, histoire d'une idée insaisissable, c'est le titre du livre de notre invité, le professeur d'histoire européenne, Darin McMahon. Darin, vous nous avez dit que l'égalité pouvait être instrumentalisée politiquement. Est-ce que, naturellement, elle existe, l'égalité? Ou est-ce qu'à l'état de nature, il n'y a pas plus d'égalité que dans la meilleure constitution?
Franchement, on ne le voit pas, en fait. On ne voit pas entre les... Quand vous faites des comparaisons entre deux, trois personnes, il y aura toujours des différences. Donc, il est important de trouver des définitions d'égalité qui peuvent accommoder la différence. Est-ce que je peux dire juste un petit mot sur Monsieur Gini,
qui
a invoqué
Gini,
avant? En fait, il était un fasciste italien.
C'était très important. Intéressant.
Et en plus, l'Amérique, comme vous avez dit, est un des pays les plus inégales aujourd'hui. Mais pendant les années 50, nous avons un coefficient Gini à peu près le même de la Suède. Donc voilà, la politique peut changer beaucoup de choses.
Elle peut changer, pardon, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails. Mais ce coefficient Gini, il a beaucoup bougé entre la période, par exemple, disons Obama et la période Trump. Ou c'est plutôt une tendance longue, cette montée des inégalités?
Non, c'est depuis la fin des années 70. Donc une question de globalisation et aussi de le néolibéralisme. Ouais, mais ça a devenu pire.
Ah oui, ça devient pire avec Trump, Manon.
C'est quoi la différence entre la recherche d'égalité et le nivellement?
Alors, recherche... Oui, le nivellement, en fait, en France, ce mot date de la Révolution française, et en fait, c'était une empreinte de les Anglais. Il y avait une partie politique et religieuse pendant la guerre civile en Angleterre, pendant le XVIIe siècle. Ils s'appelaient les levelers, les niveleurs. Et donc, les Français ont emprunté la terme pour faire référence aux Jacobins. Donc, niveler est normalement de... En fait, les Australiens ont une expression très bonne, the tall poppy syndrome, c'est-à-dire le poppy, c'est une fleur rouge, et quand ça pousse plus haut que les autres, il faut le couper. Oui. Et donc, il y a une espèce de violence là-dedans, dans le nivellement. Mm-hmm. Et rechercher l'égalité, c'est de calibrer les différences, il me semble.
Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui ont combattu pour plus d'égalité. Il y a eu des morts au nom de l'égalité.
Ah, ça, oui.
Est-ce que ce sont des luttes qui sont vaines aujourd'hui?
Non, je crois que ça continue, mais en fait, nous avons fait des progrès. Il faut rappeler ça, en fait. L'histoire d'égalité n'est pas simplement de l'histoire d'une idée difficile à saisir et peut-être une mirage, mais en fait, ils ont été des progrès, des pas de progrès réels.
ni une seule femme pouvait voter dans le monde à la fin du 19e siècle. Ouais. Et imaginez. Et maintenant, il n'y a que chez le Vatican et en arabe.
Ouais.
Donc, ça, c'est un changement réel. Mais ce qui est arrivé pendant les années 70 avec la deuxième vague de féminisme, c'est de aller plus loin. C'est pas simplement une question de vote, mais d'égalité dans le chambre, par exemple, dans le maison.
On cherche, on a compris, on doit chercher en tant que société démocratique à gommer les inégalités le plus possible, mais une société parfaitement égalitaire, en théorie, ça serait quoi, un cauchemar ?
Probablement, oui. En fait, parce que ce que j'insiste dans le livre, nous désirons l'égalité et nous avons développé des outils, des moyens de combattre les inégalités, la hiérarchie, la domination, de supporter la société. Mais en même temps, nous sommes des animaux qui sont hiérarchiques. Nous partageons par exemple 98% de notre ADN avec les grands singes, qui sont des animaux très 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 hiérarchiques. Bon, il faut pas être littéral, mais en fait il y a des comparaisons à faire. Nous sommes doués avec la capacité de noter le status, les différences de status tout de suite dans les autres. Donc il faut accepter ça. Il faut travailler avec ça.
Il faut accepter l'animal qui est en nous.
Nous sommes des animaux hiérarchiques qui cherchent de minimiser la hiérarchie.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une déclaration française aujourd'hui, celle des droits de l'homme et du citoyen qu'on a beaucoup cité. 2 pages, 17 articles écrits en 1789. Le premier, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Une phrase révolutionnaire dans un monde encore structuré par la naissance, le privilège et la hiérarchie. Car nous sommes à l'été 1789, le royaume de France est en faillite, la famine s'étend, Versailles tente de reprendre la main. À Paris, la Bastille vient de tomber et dans la salle du jeu de paume, des députés qui ne représentent plus seulement les ordres, mais un peuple, s'assignent d'une mission, refonder le pouvoir sur le droit et non pas sur le roi. L'objectif est double, abolir l'arbitraire monarchique et poser un cadre juridique commun dans un pays jusque-là structuré, je l'ai dit, par les privilèges de naissance. Inspiré par les philosophes des Lumières et par la déclaration d'indépendance américaine de 1776, la déclaration des droits de l'homme proclame les principes de souveraineté nationale, de séparation des pouvoirs et de protection des libertés individuelles. Mais son universalité affichée est tout de même limitée aux hommes. Elle exclut notamment les femmes, mais aussi les esclaves, les populations colonisées. La grande défenseuse des droits des femmes, Olympe de Gouges, va d'ailleurs dénoncer cette exclusion en 1791 dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle sera guillotinée 2 ans après pour avoir notamment critiqué la violence des révolutionnaires. Mais en critiquant la déclaration des droits de l'homme, elle a mis la lumière sur cette fameuse égalité qui n'en a donc que le nom, que le terme. L'abolition de l'esclavage n'intervient qu'en 1794, puis est rétablie en 1802 avant d'être abolie définitivement en 1848. Et puis le vote des femmes ne sera voté qu'en 1944, donc 155 ans plus tard. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen va inspirer l'écriture de nombreuses constitutions du 19e siècle et influence directement la déclaration d'indépendance de la Grèce, les constitutions libérales d'Amérique latine et les chartes constitutionnelles européennes du 20e siècle. En 1948, elle constitue l'un des textes de référence du comité chargé de rédiger la déclaration universelle des droits de l'homme aux Nations Unies, qui reprend l'idée que certains droits sont inaliénables, et que quels que soient les gouvernements en place. Et vu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être toujours bien de le rappeler.
Merci beaucoup Manon pour cet éclairage.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Après 3 quarts d'heure à brainstormer sur la notion d'égalité, nos cerveaux sont déjà en surchauffe, sauf bien sûr celui de l'intello de la bande. Dont l'avant-dernière story Insta est une manière de poser la question à sa commu « Êtes-vous aussi brillant que moi ?» ou bien « Ne méritez-vous même pas de me suivre ?» Cette story, c'est en effet sur la photo d'un livre ouvert, cette citation que je vous livre. « Pour que ceci fût entièrement dépourvu de potentialité, il faudrait que je fusse un pur présent, ce qui est inconcevable. » Même Darin McMahon, notre invité, s'est endormi. Alors imaginez votre commu, Pierre Courade, pauvre Bibaros. Pierre, chaque après-midi, entre deux fulgurances littéraires, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Ah, Mathieu, je me suis replongé dans Sartre pour préparer cette émission. Oh, malheureusement, bien sûr. Il était plus question de liberté que d'égalité. Du coup, j'ai écouté avec attention ce que nous a expliqué notre invité cet après-midi, l'éminent professeur d'histoire européenne Darren McMahon. Et quand on porte le nom du deuxième président de la Troisième République, on a forcément une appétence pour notre Révolution française, celle qui a forgé cette notion d'égalité et qui l'a apposée sur le fronton de nos bâtiments publics. Mais ce que nous a surtout expliqué Darren McMahon, c'est que l'égalité de la Révolution française a été dévoyée par la terreur jacobine qui voulait niveler la nation par la guillotine. L'égalité pervertie jusque dans les discours nazis pour qui l'égalité de type ne pouvait concerner que les Ariens, rejetant les autres. En fait, pour notre invité, l'égalité est un concept de comparaison. On peut se dire égaux, mais seulement sur certains points communs. On crée des cercles d'égalité et ceux qui n'en sont pas en sont de fait exclus. L'inégalité est réelle, plus que l'égalité elle-même, qui est un idéal à atteindre. Alors, devant cette abstraction, on préfère aujourd'hui l'équité, qui est une manière d'inverser les injustices et finalement atteindre une certaine égalité.
Merci Pierre, vous êtes décidément le bon élève de cette équipe.
C'est gentil, Mathieu.
Et accessoirement, le faillot. Ouais. Aujourd'hui, pour parler d'égalité, nous avons la chance de recevoir une ministre, et pas n'importe laquelle, Rachida Hadi.
Rachida Hadi, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir dans vos locaux payés par les Français. Laissez-moi parler, monsieur Noël. Vous m'interrompez parce que je suis une femme.
Autant pour moi, je pensais que vous aviez fini, simplement.
Quand j'aurai fini, vous le saurez, Mathieu. Je suis Rachida Hadi. Rachida Hadi, taisez-vous maintenant. Laissez-moi parler égalité. J'ai vécu 12 remaniements ministériels, 3 liftings et je suis toujours là. Malgré ma mise en examen pour ne pas avoir envoyé les bons papiers au bon moment.
Vous êtes sûr que c'est pour ça
là? Oui, bon, les mots des juges sont corruption, trafic d'influence, recel d'abus de pouvoir, tout ça. Que des mots pour faire peur. Des dramas. Queen, c'est juste, je vous jure. Mais je suis encore là. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Français me font confiance. Rappelez-moi la devise de la République française.
La liberté, égalité.
J'ai pas dit Rachida Hadi. Rachida Hadi, rappelez-moi la devise de la République française.
Pardon, madame la ministre. Liberté, égalité, fraternité.
Exactement. Égalité. L'égalité est au cœur de tous mes combats. L'égalité des femmes contre les hommes, l'égalité des salaires, l'égalité du temps de mandat à la mairie de Paris. Vous connaissez la place maintenant. Hein. Les Parisiens me veulent. Il suffit, Hidalgo, la zaz de la mairie avec ses jardins de punk à chien sur le champ de Mars. Bref. L'égalité, Mathieu, c'est ce que je réclame, même si je sais bien que nous ne sommes pas tous égaux. Moi, par exemple, je n'y connais rien à la culture. J'ai vu une pièce de Molière en 4e, c'était chiant à mourir. Le théâtre, so boring, hein, Mr. McMahon. On a distribué la carte de la culture, je prends la carte de la culture, qu'est-ce que vous voulez? Que diable allais-je faire dans cette galère? Allez-y, posez-moi la question.
Que diable allez-vous faire dans cette galère?
J'ai pas dit Rachida Hadi. Oh, vous n'apprenez rien, ils sont pas rapides ces journalistes. Je vais vous privatiser, ça vous allez voir, ça va vous réveiller l'abricot, je vais vous le dire. Bref, attention Noël, hein, moi je passe 2 coups de fil, hop, je vous vire. Hein, comme Merwan Ben Lazare, il faisait moins le malin le barbu. Et à la place, vous mettez vous Manon, hein, vous voulez devenir une star Manon, un mot à dire, et puis hop, un texto, c'est fait. Hein, voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, cette galère de culture. Vous savez Mathieu, la vie c'est comme une boîte de chocolat, ou un documentaire Arte, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je voulais tirer économie rue de Bercy, je me retrouve avec culture rue Saint-Honoré. Heureusement, je suis une femme forte qui arrive à apaiser sa peine dans les petites boutiques du quartier.
Ce sont des magasins de luxe dans le quartier.
C'est important d'aider les commerces de proximité. L'économie, moi je m'y connais, j'ai d'ailleurs un projet extrêmement simple pour nous sortir de la crise. Écoutez bien d'ailleurs les intermittents de la radio. Je propose un budget égalitaire, c'est-à-dire que tous les ministères devront composer avec le même budget que celui de la culture. Là, vous allez me dire, mais vous baissez tout.
Oui.
Oui, mais quand vous augmentez, quand on augmente tout, vous n'êtes absolument jamais content. Donc, mettez-vous d'accord, les gauchos. Hein. Oui, ça fera moins d'armes et de missiles, plus de gens dans la rue, mais c'est aussi plus de pièces de théâtre qui vont dégoûter la jeunesse, qui leur font préférer les maths, la techno et le capitalisme. Vous croyez qu'ils vont régler les problèmes sociétaux, les élèves option théâtre du lycée Jean Monnet, hein, avec leur goût horrible pour les vêtements? Non. Alors que mes futurs petits ingénieurs, oui, ils n'auront pas de divertissement, mais ils seront vivants. Et là, on pourra dire que j'ai fait du bon travail. Et à moi, la mairie de Paris. Et ensuite, demandez-moi ce que je ferai ensuite.
Et vous n'avez pas dit, Rachida a dit.
Bravo Noël. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est un test pour choisir mon futur Premier ministre. Car ensuite, je deviendrai la présidente des arrondissements unis de Paris et de France. Je ferai de vous une star. Mathieu et Manon n'en a pas voulu assez. Alors, maintenant, c'est à vous. Et à nous, la France.
À nous, la France. Ah oh, oui.
Oui.
Oh, pardon, je m'emmêle un peu. Merci, Rachida.
Ned.
Quand on prend mieux, mais merde.
Merci surtout, merci. Surtout, Lisa Perriot, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et sur scène, dans votre spectacle, les mardis à Paris, à la Nouvelle Scène, le 9 novembre à Étain et le 15 novembre à Auray. Et puis en tournée un peu partout en France. Merci beaucoup, Darren McMahon, de nous avoir éclairé sur les ambivalences de cette notion centrale mais complexe d'égalité. J'ai fait une phrase plus chiante que courage, je réalise ça. Bon. Pour aller plus loin, je rappelle que votre nouveau livre est là, Égalité, histoire d'une idée insaisissable qui vient de paraître chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Zoom Zoom Zen.